Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et j'adore toujours ce générique.
C'est parti.
Et c'est parti. Bonjour Pascal et vive le cinéma.
Vive le cinéma. Oui.
C'est important.
C'est important. Il faut que ça fasse partie un petit peu de on va dire pas du quotidien, mais presque.
C'est notre patrimoine, le cinéma.
Oui, absolument. Et comme je l'ai dit, je le redis, c'est le premier loisir des Français. C'est vraiment le premier loisir. Oui.
D'accord.
Donc c'est important, bien sûr.
Je pensais qu'il y avait le jardinage avant.
Il y avait le jardinage. Alors déjà, les Français sont les premiers jardiniers d'Europe.
Ouais.
C'était aussi les premiers pollueurs et les produits chimiques, tu savais ça. C'est pour ça qu'ils ont interdit le Roundup, tu sais, mais tout le monde pense à chaque fois, tu sais, à la grande agriculture.
Ouais.
Non, c'était les gens qui faisaient aussi n'importe quoi dans leur jardin. Hein. Le surdosage et tout, tu le vois, hein, quand tu passes dans certains endroits, les mecs, ils appuient un peu trop.
Après, ça fait des gros légumes.
Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, l'herbe, tu sais, quand elle sèche, elle devient. Ça fait une super couleur, ça fait rose fluo.
Oh, c'est moche.
Qui vire vers l'orange vif et tout, c'est joli. Hein. Ouais, et c'est pas bon, ça pollue beaucoup.
Bon, on va parler cinéma et alors, Pascal.
On va parler cinoche, ouais, sinon on parle jardin. Alors là, moi j'en parle pendant des heures, tu penses bien. C'est ma deuxième passion, le jardin.
Ah, t'as la main verte.
La main verte.
C'est important.
Oui. Les fruits, les légumes, surtout, et les fleurs. Je mélange les trois. C'est joli, c'est harmonieux.
Voilà.
Bonjour Christophe.
Et bonjour Pascal. Bienvenue dans le jardin de la radio.
Et bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 65 d'Entracte.
Et c'est parti.
C'est parti pour une nouvelle semaine, oui.
Oui, une nouvelle semaine avant quelques petits congés qui vont suivre.
Ah, tu voulais l'annoncer.
Non, mais à la fin de l'émission.
À la fin de l'émission.
Voilà.
À la fin de l'émission.
Alors, on se retrouve cette semaine pour, bien sûr, voir un petit peu ta sélection du cinéma de la Brèche, tout simplement, à Sainte-Foy-la-Grande. Et tu as choisi 5 films cette semaine, 5 rendez-vous à ne pas rater, et tu vas nous présenter le sommaire de l'émission.
Alors, 5 films, oui, effectivement. On va parler de la dernière création de Jeanne Herry, et je verrai toujours vos visages. On va parler aussi du super-héros qui reviennent un petit peu, là. Au numéro 2, le deuxième opus.
Là, je vois, t'as l'affiche dans ton dos, là.
Oui, tu l'as vu. C'est pas mal, quand même.
C'est pas mal.
Le dernier film de David Sandberg, Shazam, La rage des dieux. On va parler aussi du dernier film d'Emmanuel Nico, Dalva, ainsi que de la dernière création de Jennifer De Volder, Sage Homme.
Oui.
C'est pas commun, ça, hein ?
Non, c'est vrai.
Ah, tu as l'affiche ici, elle est pas mal, moi j'adore. on va parler, alors je mets un petit coup de projecteur, parce que c'est quand même un très très bon film qui est sorti jadis, dans le cadre de Ciné-Mémoire. Tu sais, on passe des films un petit peu anciens, des fois des films très anciens.
Vous dépoussiérez des films, ouais.
Voilà. Et on va parler d'un des films de Jim Jarmusch,
ouais.
Qui est quand même assez mal connu, Jim Jarmusch. On va parler de Ghost Dog, La Voix du Samouraï. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et qui est toujours aussi épatant. Il n'a pas vieilli du tout. Et dans le cadre de la sortie donc, du film, je crois que c'est Je verrai toujours au visage.
Je sais qu'il y a Miu Miu, mais.
Tu as vu.
Oui, tout à fait.
On va parler d'Élodie Bouchez, c'est mon personnage de la semaine.
Ouais, je te confirme, elle est bien dans le film.
Elle est bien dans le film, c'est ça. Hein, parce que normalement, je le note, tu sais, là, j'ai oublié. Donc... Élodie Bouchez, oui, quelqu'un que je ne voyais plus trop sur les écrans.
Oui.
Je pensais vraiment que ça a été retiré un petit peu de la profession, mais pas du tout. Parce que quand j'ai fait sa filmographie, je me dis, ah non, quand même, Turbine.
Elle bosse, hein, ouais.
Turbine. Donc, il est toujours là. Là, on la revoit un petit peu sur le devant de la scène. Et c'est très bien. Parce que c'est une excellente actrice.
Eh bien, justement, puisque tu en parles, tu vas nous présenter le premier rendez-vous de la semaine. Je verrai toujours vos visages avec le retour de Mimio et justement d'Élodie Bouchèze dans ce film.
Alors, on va parler donc, oui. Donc, je verrai toujours vos visages. Donc, c'est un film français d'1h58, donc de Jeanne Héry, qui est scénariste, réalisatrice, actrice. Elle est multicarte. Alors, Jeanne Héry, c'est pas. Elle a réalisé en 2018 Pupille, avec Sandrine Kiberlain et Élodie Bouchèze. Donc, ça fait deuxième fois que Élodie Bouchèze tourne pour Jeanne Héry. Alors, au niveau des acteurs et actrices, on va retrouver Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leïla Bekti, Élodie Bouchèze, Sullivan Brahim, Gilles Lelouch, Miu Miu et Jean-Pierre Darroussin. Alors, depuis 2014, en France, la justice restaurative, qui n'a rien à voir avec les arts de la table. Oui. C'est vrai que ça s'écrit pareil.
Au
début, j'étais surpris, c'était la restaurative. Donc, depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith Fanny ou Michel, Nassim Issa Thomas, condamné pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s'engageant tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée. Et au bout du chemin, parfois, la réparation. Alors, juste pour, dans le cadre de ce film-là, on aura un ciné-rencontre. Hein.
Ah, très bien.
Donc, je vous donne quand même la date, le 6 avril à 20h15. Hein. Un ciné-rencontre donc, avec des intervenants comme Alexandre Do Nascimento, qui est animateur des mesures de justice restaurative, ainsi que Pauline Viette, animatrice des mesures de justice, voilà, qui vont venir un petit peu parler de leur travail. Hein. Donc je rappelle la date, il y aura donc un ciné-rencontre le 6 avril à 20h15 à La Brèche. Donc pour revenir sur ce film-là, la naissance, au niveau de la naissance du projet, donc il a été créé en 2014. Hein. La justice restaurative est un espace de dialogue de nature à offrir aux personnes impliquées qui souffrent des persécutions du crime la possibilité de se rencontrer pour en questionner le pourquoi et le comment. Après Pupille, Jeanne Héry cherchait un nouveau projet et a entamé des recherches sur des sujets qui l'intéressaient, le fonctionnement du cerveau et le milieu de la justice. Et comme elle nous dit, j'ai toujours été passionné par les faits divers, les procès, les grandes figures du banditisme, les ténors du barreau. Un jour, je suis tombé par hasard sur un podcast autour de la justice restaurative. Ça m'a intrigué, puis captivé. Ce qui m'intéressait dans ce processus était précisément ce qui motivait mes recherches sur le cerveau, la réparation. Se rappelle la réalisatrice qui signe son troisième long métrage. Alors dans Pupille, je verrai toujours vos visages, Jeanne Héry éclaire un endroit du réel peu connu qui propose des outils porteurs d'espoir. Pour autant, la cinéaste ne fait pas ses films pour parler de l'adoption ou de la justice restaurative. Et comme elle nous dit, ce ne sont pas des documentaires. Le fond me touche, mais c'est d'abord le cinéma qui m'importe. Ce sujet, je le choisis car je pressens que je vais pouvoir y planter des graines de romanesque et qu'il va m'offrir la possibilité de faire un bon film. Au cours de mes recherches un des interlocuteurs que j'ai rencontré m'a dit « L'objectif de la justice restaurative, c'est la libération des émotions par la parole. C'est cette libération que j'ai voulu mettre en scène », précise-t-elle. Alors, Jeanne Héry a rapidement décidé de mettre en scène des rencontres de détenus victimes autour des vols avec violence. Une problématique sociale et sociétale assez banale, mais dont on mésestime les effets ravageurs sur les victimes. Et la réalisatrice confie. Les violences intrafamiliales n'ont pas de frontières sociales. Elles frappent tout type de famille, de quartier, de classe. Ce sont des guerres sourdes qui ont lieu derrière les murs des maisons, nos maisons. Chacun peut s'identifier, se projeter. Je me suis à nouveau longuement documenté et j'ai voulu raconter un frère agresseur, une sœur victime et la famille qui avait généré cela. La violence, l'amour, la prise de pouvoir, les manques et les manquements. Des drames effroyables et courants. Donc avec Je verrai toujours vos visages, Jeanne Héry retrouve plusieurs comédiens qu'elle a déjà fait tourner dans Pupille. C'est le cas de Gilles Lelouch, Élodie Bouchèze et bien sûr Miu Miu. Alors elle nous dit, et bien sûr, sa mère Miu Miu. Alors je suppose
ouais.
que Jeannerie est la fille de Miu Miu.
D'accord.
Vu comment c'est présenté.
On va donc, se renseigner.
Oui. Donc, Jeannerie n'a pas assisté à des rencontres entre victimes et agresseurs. Comme elle nous dit, cela aurait été contraire au principe de base de cette pratique qui invite les agresseurs à se raconter en toute liberté. La cinéaste explique, ils savent que le cadre dans lequel ils vont s'exprimer est sécurisé et que rien de ce qu'ils diront ne sera répété. Il arrive d'ailleurs que certains dévoilent des faits qu'ils n'ont jamais révélés. Les seules choses auxquelles j'ai assisté et qui étaient hyper intéressantes sont les formations. J'en ai suivi 3. La formation d'animateurs que font Fanny et Michel dans le film, j'ai vraiment éprouvé de l'intérieur la première scène du film en jouant tour à tour des auteurs et des victimes face à des apprentis animateurs. Celle de médiateur, la fonction qu'occupe Judith, et une troisième formation par Zoom au Québec. Alors côté casting, alors Jeannerie a écrit un film en ayant en tête certains auteurs comme sa mère, Miu Miu, donc, qui jouait.
C'est confirmé.
Elodie Bouchez, Gilles Lelouch, Leïla Bekti et Jean-Pierre Darroussin. Et comme elle nous dit, je n'étais pas sûr que le rôle intéresserait Gilles. Après tout, son personnage n'arrive qu'à la 50e page. Je ne connaissais pas Leïla Bekti. Pour moi, c'était des boussoles, c'était agréable d'avancer avec eux en tête. J'ai très vite pensé à Brian Ba pour le rôle d'Issa. Je l'ai trouvé très inspirant en travaillant avec lui sur un spectacle à la Comédie Française. Alors, il y a peu de personnages jeunes dans mes films et il m'a donné envie d'en imaginer un. Il est formidable. Biran Soler, très fiable, il cherche beaucoup. Sont venus ensuite Sulian Brahim, avec qui j'avais travaillé aussi, Adèle Exarchopoulos, Dali Bensala et Fred Testo. Alors, Jeannerie avec pour référence principale 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Ça te dit quelque chose ?
Ça me parle, ouais.
Et oui, c'est des films qui passaient très tard le soir parfois. Ouais. Mais aussi en thérapie, la série d'Olivier Nakache et Eric Toledano. La cinéaste raconte, elle m'a beaucoup plu. Et aussi rassuré. À ce stade même, je ne le souhaitais pas. Je me posais encore la question de mettre ou non en scène les agressions dont les victimes avaient fait l'objet. Devait-on voir Sabine se faire voler son sac ? Son récit suffira-t-il ? En thérapie, m'a conforté dans ce que je voulais faire. Les visages de la série étaient comme des paysages. On se faisait nous-mêmes nos propres images. On peut faire confiance aux mots et aux jeux. Je me suis concentré sur le plaisir et la perspective de voir mes acteurs jouer. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur tout le travail en amont qui a été fait pour réaliser donc ce film. Je verrai toujours vos visages.
Ouais. C'est un petit peu un exercice assez compliqué hein, pour la réalité des choses. En fait, c'est prendre confiance en soi et surtout faire un petit peu le deuil de ce qu'on a vécu. On a l'impression que c'est un petit peu...
Il y a ça aussi, mais il y a aussi le courage d'aller
raconter. Oui, le courage, bien sûr. Ouais.
Tu vois, sans craquer, sans, parce que mine de rien, c'est quand même des traumatismes.
Enfin, ouais. Peut-être aussi une façon d'évacuer tout ça, quoi.
Alors pour certains, ouais, qui aiment bien tout ce qui ressemble un petit peu à des thérapies, on va dire, de groupe.
Ouais, ouais.
Je sais pas, j'imagine les personnes âgées qui se font arracher leur sac. Ça est arrivé plusieurs fois. Il y a des affaires à Nice qui ont éclaté dans la presse un petit peu comme ça, où la pauvre mamie elle s'est fait traîner. En scooter, ouais. Parce qu'elle ne voulait pas lâcher le sac. Bon, tu rentres dans quel état le soir ?
Alors, est-ce qu'il y a des psychologues qui accompagnent ce dispositif ?
J'espère vraiment qu'il y en a. Parce que, quand tu es une personne âgée, tu es un peu faible et que tu prends quelque chose de super violent où tu vas mettre du temps à réagir à ce qui se passe, tu vois ?
Ouais.
Plus, on va dire, le choc du sol où parfois elles sont frappées et tout. C'est cauchemardesque. Comment on peut se remettre de ça ?
Ouais.
Quand ça te tombe dessus, on sent que tu vois rien. En général, les gars, ils arrivent par derrière, tu vois. Donc, mais c'est l'horreur absolue, hein, mine de rien. Après, les gamins, ils prennent ça pour un vol tout à fait banal, tout ça. Mais les répercussions sont énormes sur ces pauvres gens.
En tout cas, c'est un sujet intéressant, peu commun en matière de cinéma.
Oui,
c'est vrai, on va découvrir. C'est tout à fait original.
C'est pour ça que c'est vraiment très très chouette qu'il y ait une rencontre avec des acteurs justement qui œuvrent dans cette discipline-là et qui accompagne les gens.
Eh bien, écoute, ça vaut le détour. Et surtout,
je vous encourage à
soyez
venir.
Curieux pour venir voir ce film. Et d'ailleurs, on va découvrir ensemble la bande-annonce sur Radio Grand Air.
Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette.
J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner.
Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume ! Nous sors pas tes excuses débiles, là !
Tu le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers !
Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Je comprends pas cette violence.
On est là pour favoriser leur réparation.
J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.
Voilà, je verrai toujours vos visages, un film fort et poignant, avec des témoignages assez forts aussi. Donc, on vous invite à aller voir ce film à la brèche.
Oui, bien sûr, oui. Et surtout à venir découvrir les intervenants. Hein.
Absolument, vous allez pouvoir échanger, peut-être comprendre et surtout...
Voilà, et surtout poser des questions.
Poser des questions.
Ça, c'est important parce que voilà. Le ciné-rencontre sert à ça.
Exactement.
Donc, je vous rappelle la date.
Allez-y.
Le 6 avril.
Mon cher Pascal.
À 20h15, ciné-rencontre. Donc, avec Alexandro do Nascimento, qui est animateur des mesures de justice restaurative, et Pauline Vette, animatrice des mesures de justice.
Voilà, il maîtrise le sujet, forcément.
Ah, je pense, oui.
Eh bien, salutez Pascal pour ce rendez-vous dans les murs de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande. On enchaîne avec un petit peu de fiction, enfin même beaucoup de fiction.
Des choses plus légères. Là.
Ouais, plus légères, côté un petit peu décalé, ouais. Je pense, vu l'affiche.
On va aller chez les Ricains.
Ah ouais. Enfin,
toujours plus beau, toujours plus haut, toujours plus fort.
Avec des jolis costumes.
Ah là, 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 toujours. Shazam, la rage des dieux.
Très bien.
Moi j'aime bien.
Les super-héros.
Moi, le titre, il me fait rire.
Ouais.
Un film américain de 2h11, fantastique aventure de David Sandberg. Alors David Sandberg, il faut savoir une chose. Bon, déjà, il a créé en 2019 Shazam, le premier.
Oui, oui.
Parce que là, on est sur le deuxième opus. Là.
Shazam ouvre toi. Oui. Non, c'est pas ça.
Mais tu sais quoi ? Non, mais Shazam, en fait, c'est le nom,
ouais.
C'est le mot qu'il prononce pour se transformer en super-héros.
Ah oui ?
Et oui. Il fait Shazam et il se retrouve, hop là, en collant.
Vas-y, essaye. Hein.
Et en boule burn. Et en bottine.
Alors, je vais essayer, moi.
Bah non, moi, j'ai pas trop envie, mais je suis pas super-héros, tu sais.
Non, mais. Je pense qu'on va pas faire un maître et qu'on va finir. Dans un lieu un petit peu spécial.
En plus, moi, je ressemble à rien. Qu'est-ce que je veux foutre avec un costume
en pyjama.
Donc Shazam, donc en 2019, en 2017, Annabelle 2, la création du mal.
Ouais.
C'est là une espèce de poupée maléfique.
Ah oui, oui, oui.
Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Zachary Levi qui rempile, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Lucy Liu, Helen Mirren, Rachel Ziegler, Adam Brody et Rose Butler. Suite des aventures de Billy Batson, donc ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot Shazam. Tu vois le truc ? Investi des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de l'Atlas, trio d'anciennes déesses ivres de vengeance débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy alias Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. S'il vous plaît.
C'est important de sauver la planète.
Mais une bande d'adolescents peut-elle vraiment empêcher la destruction du monde ? Et surtout Billy, en a-t-il vraiment envie ? Ah ah !
Ça donne envie d'aller voir.
Quel suspense.
Suite. Ouais.
Non mais Shazam, c'est quand même assez délirant. Hein. Tu vois, ils se prennent pas au sérieux. C'est ce qui est bien. Tu vois, autant là-bas, on avait des super héros qui étaient vraiment très très carrés, qui débarquaient de je sais pas quelle galaxie pour sauver la Terre. Bon là, le gars, il est sur Terre, tu vois, et puis il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et puis voilà, c'est tourné un petit peu à la dérision. C'est un petit peu loufoque, Shazam. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui plaît. C'est un Deadpool, mais plus tranquillou quand même, parce que Deadpool, bon, c'est un de mes préférés, même si je suis pas fan de Marvel, tout ça, mais voilà, c'est, j'aime bien ces comiques là. Donc Shazam, la rage des dieux, est la suite de Shazam, sortie en 2019 et qui avait rapporté 367 millions de dollars. Moi, il me fatigue, les Américains,
ouais, ça
ouais,
compte en dollars,
de
ouais.
recettes dans le monde.
Ouais.
Le Suédois, donc David F. Sandberg, rempile à la réalisation. Et comme il nous dit, ce qui m'a le plus emballé avec ce nouvel opus, c'est d'explorer la manière dont ces adolescents évoluent et collaborent en tant que super-héros. Et comme on peut s'y attendre, ce n'est pas toujours une réussite. Comme Shazam, ils sont tous encore bien candides, mais si certains sont plus mûrs que d'autres, et ils mènent leur vie d'ado. Donc Zachary Levi est lui aussi à nouveau de la partie dans le rôle titre. Et comme il nous dit, dès que David et Henry m'ont parlé de l'idée du deuxième volet, j'étais partant. Je me suis dit que c'était exactement ce qu'il fallait pour construire une suite extraordinaire. J'étais donc très emballé, et le fait de retrouver les acteurs et l'équipe technique que j'avais énormément apprécié. Et c'est aussi un rôle franchement amusant à jouer. J'ai l'occasion d'être un super-héros, et en plus de ça, il est très drôle. Ouais, je pense. Je pense aussi. Mais David affiche les enfers.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
Voilà un petit peu pour vous éclairer sur le film donc Shazam, que nous aurons sorti nationale à la brèche cette semaine.
Voilà, 2h10 de rendez-vous décalé.
Oui. Délirant.
Et délirant, oui, ouais, tout à fait. Vous avez passé un bon moment à la brèche.
Voilà, c'est pour se décontracter.
Se changer un petit peu les idées, ça va faire du bien. Troisième rendez-vous de la semaine, Pascal. Notre sélection à la brèche, que vous trouverez d'ailleurs aussi dans le programme de la semaine.
Voilà, on va parler aussi d'un autre film qui sera aussi dans le cadre de ciné-rencontre.
Hein. Ouais.
On a beaucoup d'animations.
Oui, il y a beaucoup
de champs. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est bien.
On va parler de Dalva, un film franco-belge d'une heure vingt, c'est un drame, hein, d'Emmanuel Nico. Alors, ce film-là a reçu, écoute bien, 4 prix, 7 nominations. 4 prix, c'est énorme. Hein,
ouais.
À la semaine cinématographique de la critique, il a reçu le grand rail d'or du meilleur long métrage pour Emmanuel Nico. Le deuxième prix, c'est le prix Fipricci. Le troisième, c'est le prix de la Fondation Louis Roeder de la Révélation. Et le quatrième, c'est le prix de la Fondation Gann pour le cinéma. 4 coupes, c'est pas souvent, c'est pas courant. Hein. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Zelda Sanson, Alexis Manenti, Fanta Curassi, Marie de Normand, Jean-Louis Coloc, Sandrine Blanche, Maya Sandoz et Roman Kuster-Hachet. Ce que je trouve vachement bien, c'est que tu n'as aucun acteur
oui,
de connu.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais.
Il décroche 4 prix.
Effectivement, ouais.
Donc c'est l'histoire de Dalva qui a 12 ans, mais qui s'habille et se maquille et se voit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s'offrir à Dalva, celle d'une jeune fille de son âge. Alors, le mardi 4 avril, à 20h15, il y aura une ciné-rencontre avec Florence Mauve et Sabrina Simal, qui sont directrices adjointes et éducatrices spécialisées à l'association Solidaire Enfance en Pays Foyer.
Voilà, donc ce sont des voisins qui nous rendent visite.
Carrément, ils sont juste à côté. Donc je rappelle la date, le mardi 4 avril, 20h15, au cinéma. Alors Dalva. Donc Dalva est né d'un mélange de plusieurs éléments qu'avait en tête Emmanuel Nico. En premier lieu, la thématique de l'emprise qui lui est personnelle. Ensuite, lors de son dernier court-métrage, donc à l'arraché, la réalisatrice était en immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents. Et comme elle nous dit, ce qui m'a frappé là-bas, c'est que tous ces enfants qui étaient là pour maltraitance avérée continuaient à faire bloc avec leur famille, considérant que la justice était injuste de les avoir placés. C'est vrai que c'est souvent le cas.
Oui.
J'ai suivi deux de ces jeunes pendant des années et c'est ainsi que j'ai découvert le chemin qu'ils parcouraient entre la séparation avec leur famille jusqu'à leur libération. À côté de ça, une de mes amies avait un père, éducateur, dont le travail consistait à extraire de leur domicile des enfants suspectés de subir des maltraitances pour les emmener en foyer. Un jour, cet éducateur a dû s'occuper d'une fillette de 6 ans vivant seule avec son père, avec suspicion d'inceste. Et comme elle se rappelle, elle ajoute, elle s'est retrouvée face à cette petite fille hyper sensualisée et sexualisée et qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. L'ensemble de ces éléments ont fait naître le projet d'Alva. Voilà un petit peu pour cerner un petit peu le scénario. Donc Emmanuel Nico sort de l'IAD donc en Belgique en 2012 avec son court-métrage Rai, qui connaît un beau succès en festival. En 2016, elle réalise À l'arraché. Sélectionné dans plus de 60 festivals dont Angers, il remporte 17 prix. C'est quelqu'un qui remporte beaucoup, beaucoup de prix. Dalva est son premier long métrage et Emmanuel est également directrice de casting spécialisée en casting sauvage, véritable passion qui se révèle aussi dans ses propres films. Elle est lauréate de la Fondation Gann pour le cinéma en 2021. Et oui, le casting sauvage. Voilà pourquoi les acteurs ne sont pas connus. Ouais. Alors, pour trouver l'interprète de Dalva, Emmanuel Nico s'est lancé avec Stéphanie Donker dans un casting sauvage très important. Elle s'occupait de la France, moi de la Belgique. On cherchait une fille de classe moyenne, voire aisée, qui possède une certaine maîtrise du langage. Je voulais aussi une fille qui ait une tenue, un joli port de tête, une grâce de danseuse. J'ai déposé des annonces dans des écoles de danse, de musique, des centres équestres, Stéphanie aussi. On a eu plein de candidatures, j'ai reçu des centaines de vidéos, et parmi cette masse, Zelda m'a tout de suite happé. Elle avait 11 ans, elle était là à se filmer dans sa chambre, elle s'exprimait avec un vocabulaire tellement riche et soutenu pour son âge. Elle m'expliquait qu'elle voulait devenir astrophysicienne, travailler sur la matière noire, elle s'imaginait prix Nobel. Elle avait aussi un discours féministe par rapport aux garçons de sa classe, elle avait vraiment une maturité impressionnante. Et puis, une assurance, une force, quelque chose d'effronté et surtout un visage très photogénique, confie la cinéaste en poursuivant. C'était impossible de lui donner un âge, j'ai tout de suite su que Dalva, c'était elle. Mais il fallait convaincre mes productrices et Stéphanie, car Zelda ne ressemblait pas à la jeune fille ultra gracieuse et féminine qu'on avait décidé au départ de chercher. Elle était un peu voûtée, regardait beaucoup vers le sol et avait ce côté très sauvage, un peu garçon manqué. Sur la fin des castings, j'ai travaillé avec une maquilleuse, coiffeuse et une costumière. Zelda s'est tout à coup transformée et tout le monde a vu naître Dalva. Donc Emmanuel Nico a découvert Alexis Manenti dans le film Choc sur la banlieue, donc Les Misérables en 2018, et de Ladj Lee où il campait un policier tête brûlée aux méthodes brutales. Mais c'est sa script Agathe Hervieux qui lui a suggéré de le choisir pour jouer l'éducateur Jayden. Et la réalisatrice explique. Alexis a la palette de jeu d'un vrai professionnel et en même temps, il a cette rugosité de pierre brute que l'on trouve chez des gens en casting sauvage. Il est complexe à la fois, hyper sanguin et d'une grande douceur avec parfois une tristesse, une mélancolie que l'on entrevoit dans ses yeux. Donc Emmanuel Nico et sa directrice de la photographie, Caroline Gimbal, laquelle a œuvré sur tous les courts-métrages de la réalisatrice, ont opté pour une mise en scène physique et intense en caméra à l'épaule. Ce qui n'est pas simple. Je peux te le dire.
Une caméra à l'épaule. Ouais.
Ah oui, oui. Et la cinéaste précise. On était très proche de Dalva, mais très libre aussi dans nos mouvements. Je ne voulais pas d'une mise en scène trop contraignante pour mes acteurs. Et c'est vrai que ça sert à ça aussi, la caméra à l'épaule. C'est vraiment se rapprocher. Bien sûr, tout était pensé. Ce n'était pas de l'impro, mais il n'y avait pas de marquage au sol ou d'éléments qui auraient cadenassé la mise en scène ou les acteurs. Il ne fallait surtout pas briser leur spontanéité, encore moins celle des acteurs non professionnels. Donc Dalva a obtenu diverses récompenses dans les festivals suivants. Donc la semaine de la critique en 2022, donc le prix Fepricci, le Rail d'Or, le prix Louis Roder, donc de la révélation pour Zelda Sanson, et au Festival de Valenciennes aussi en 2022, le Grand Prix, prix des étudiants, prix de la révélation pour Zelda Sanson, Festival du film francophone d'Angoulême, sélectionné dans la catégorie Premier rendez-vous. Bon bref, ils ont tout, je dis pas qu'ils sont tout raflés, mais quand je vois la liste, Festival du film de Jérusalem, tu vois, sélectionné dans la catégorie du meilleur film international, donc Festival francophone de Namur. Sélectionné pour la catégorie meilleur film, donc meilleur premier film à Hong Kong, film international, film festival en 2022. Bref, ce film a fait du bruit,
ouais.
Beaucoup de bruit, et a rapporté beaucoup autour de récompenses. Et je pense qu'elles sont méritées.
Avec un joli travail en tout cas, et surtout là aussi, encore une fois, un sujet très intéressant. De ces jeunes en mal-être, hein, et dans cet univers.
Mais je pense qu'elle met l'accent aussi sur ces jeunes filles qui veulent grandir très vite.
Ouais.
Qui veulent grandir très vite.
Il y a tellement un terrain aussi familial, hein, qui malheureusement laisse à ces jeunes un découragement, essaye de se retrouver une vie différemment. Il y a peut-être un manque d'éducation d'un côté.
Il y a ça aussi, puis aussi
un lâcher prise des parents. Et...
Après, aussi l'influence aussi des réseaux sociaux.
Exactement.
Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Il y a tout ça, tout, tous ces, ces petits paramètres à analyser. Alors moi, je suis loin d'être spécialiste de tout ça. Les réseaux sociaux, je connais pas trop.
Oui.
Je suis encore à l'âge de Pierre là-dessus.
Il peut y avoir un problème. Mais voilà, tu vois, c'est familial.
C'est tout ceci, ouais, surtout en fait, le développement de l'enfant.
Ouais.
Le développement, c'est
ça. L'adolescence, c'est bien important.
Exactement. C'est là où on se construit.
Exact.
Et c'est là aussi où on analyse un petit peu la vie, sa future vie, où on commence à prendre ses marques,
et
où on commence à s'orienter.
Il peut y avoir des influences, et puis
exactement,
avoir des
mauvaises
rencontres.
Bien sûr, mais des influences, dans tous les cas, on en a tous, parce qu'on a tous été influencés dans notre bien, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Hein. Et dans notre adolescence, on a toujours eu des modèles, des choses auxquelles se raccrocher, des choses comme ça, quoi. Mais, donc voilà, donc un film quand même assez intéressant sur la psychologie des enfants et des adolescents.
Voilà, avec justement, tu le disais, à l'issue de la projection, un échange que vous pourrez donc réaliser avec notamment Florence Mauve et Sabrina Simal, directrice adjointe et éducatrice spécialisée à l'ACEPT, donc l'association solidaire enfants sans pays foyen.
Voilà. Et la date ?
Et la date, c'est bien sûr le 4 avril.
Le mardi 4 avril à 20h15.
Voilà. Comme vous n'avez rien prévu, vous serez à la brèche.
Et voilà, il faut venir à la brèche, bien sûr.
Allez, on va enchaîner avec, là aussi, un autre sujet qui, ma foi, laisse aussi quelques interrogations, mais surtout quelques curiosités. Parce que c'est pas courant, ça va représenter 1% de,
des effectifs. Je me demande si ça tient de 1%. J'ai pas regardé les chiffres là-dessus. Sages-hommes, oui, nous avons les sages-femmes.
Ouais.
Sages-hommes. Le dernier film de Jennifer de Volder. Un film français d'une heure 40, c'est une comédie dramatique.
Et moi je dirais pourquoi pas.
Ah, absolument, oui. Au niveau des acteurs, on va retrouver Karine Viard, Melvin Boomer, Steve Tiencheux, Tracy Cotoas, Bruce Dumbolo, Nadia Riz, Théodore Lavis, Mathilde Abdelkader. Donc après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sages-femmes en cachant la vérité à son entourage.
Alors j'aime bien parler.
Déjà ça commence bien.
Ouais.
Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, son regard va changer sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Alors voilà encore un sujet intéressant. Donc, déjà, le sage-femme. Alors, sage est dérivé du mot sapiens, qui veut dire celui qui a la connaissance, l'expérience. Et femme désigne ici la femme dont on s'occupe. Ainsi, on peut dire la ou le sage-femme. Donc, Jennifer de Volder est partie d'une idée où la problématique classique du genre et de l'ensemble des inégalités d'accès au travail était renversée, c'est-à-dire une situation où un homme doit faire sa place dans un univers ultra-féminisé. Et comme elle nous dit, la formation de maïeutique s'est ouverte aux hommes en 1982. Ces derniers restent toutefois très minoritaires, avec seulement... Avec seulement 4,5% des sages-femmes actives.
Quand même, hein.
Moi, je croyais que ça ne passait même pas le 1%.
C'est pas beaucoup quand même, c'est un petit pourcentage, mais enfin...
Parmi ces hommes, la plupart travaillent à l'hôpital. Aucun n'est enseignant, explique la réalisatrice. La réalisatrice et son équipe ont pu effectuer, au cours de leur recherche, un stage à l'hôpital juste avant le Covid et interroger des soignants et des soignantes, des hommes et des femmes, sages-femmes, l'ensemble du personnel médical, mais aussi des parents. On voulait tout connaître de ce qui se passe dans la maternité d'un hôpital public. C'est à cette occasion qu'on a pris conscience que chaque accouchement a sa propre histoire et son lot d'incidents imprévisibles. On a aussi été frappé par le brassage de population et par la misère psychologique, sociale, c'est mes papiers, sociale, économique qui règne dans les hôpitaux, raconte Jennifer de Volder. Il était vital pour cette dernière que le film fasse preuve de vigilance quant à la véracité du milieu qu'il représentait. Ainsi, de vrais sages-femmes et de véritables soignants jouent dans le film. Il y a des choses qu'on n'invente pas, même quand on a fait un stage à l'hôpital. Et oui, c'est entièrement vrai. Donc, le rôle de Nathalie a été écrit pour Karine Viard. La réalisatrice a été soulagée qu'elle accepte le rôle, car elle ne voyait pas qui aurait pu la remplacer. Pour le personnage de Léo, un casting a été organisé. Jennifer de Volder et David Bertrand, le directeur de casting, ont vu plus de 200 garçons. Et Melvin Boomer était l'un des premiers. Au début, je me disais que c'était lui qui avait le mieux joué, mais c'était la première session et je pensais qu'il fallait en voir d'autres avant de me décider. Puis je l'ai revu, une deuxième et une troisième fois, et on a fait des essais avec Karine. À ce moment-là, je savais déjà que j'allais lui confier le rôle, mais pas se souvient donc la réalisatrice, mais pas lui. Hein. Lui s'en doutait pas du tout. Donc Yacine, le frère de Léopold, est incarné par Théodore Levis, plus connu sur YouTube sous le pseudonyme de Théodore. Le vidéaste est suivi sur la plateforme vidéo par quelques millions d'abonnés et pareil, 1,2 million de personnes sur Instagram. Donc au niveau du tournage, donc Sage-Femme a été tournée dans les environs de Nancy. Donc l'hôpital de Brabois à Vendeuvre des Nancy qui va bientôt être détruit. Elle servit pour les extérieurs et le hall. Comme il n'était pas possible d'investir une vraie maternité en état de fonctionnement pendant 3 semaines, le chef décorateur Jean-Marc Trantanba en a reconstitué une avec la salle des sages-femmes, des salles de naissance, le bloc, les couloirs, le hall, la salle d'attente, mais aussi la ruelle extérieure. Elle n'a pas été construite en studio, mais dans un lieu réel permettant d'accentuer le réalisme. Vous voyez un petit peu tout le travail qu'il y a en amont, pareil, c'est énorme le travail de mise en place. Donc la réalisatrice tenait à montrer toute la réalité du métier et du fonctionnement d'une maternité sans l'édulcorer, mais sans tomber non plus dans l'extrême opposé. Et comme elle nous dit, en adoptant le prisme de Léo, on accepte sa vision de cette réalité. C'est un filtre. Quand on s'est demandé si on pouvait filmer un vagin, la question a été vite évacuée. Et on a eu la sensation qu'on ne pouvait pas aborder un tel sujet sans le montrer au moins une fois. Cela aurait été un peu malhonnête de ne pas le faire, explique Jennifer de Volder.
Au moins, ça s'est dit.
Et oui, qu'est-ce que... Et oui, on parle de sage-femme, on parle de naissance, on parle d'enfants qui naissent et tout. Donc, et oui, ça en fait partie.
Ça ne va pas que dans les choux-fleurs.
Non, ni par ni apporté par les cigognes.
Oui.
Voilà pour vous éclairer sur toute la création donc de ce film. Donc que je vous invite à tous et toutes à venir découvrir à la Brèche cette semaine.
Sage homme. Voilà, vous n'êtes pas trompé en tout cas. C'est bien ça, Sage Homme.
Voilà,
de Jennifer DeWolder. Hein, c'est possible.
Bien sûr que c'est possible. Regarde, 4,5%. Moi, je pensais qu'ils étaient un peu moins de 1%. Tellement hein. J'étais méchant. Non. C'est un peu plus, c'est très bien.
Eh bien, écoute, Pascal, on va justement retrouver ce Sage Homme tout de suite sur la radio avec la bande-annonce.
Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes.
C'est qui, Meyer ?
Sage Femme.
Toi ?
J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord ? Ils vont t'envoyer au bled, gros.
Tenez.
Non, mais je suis pas médecin, donnez-moi la bleue.
Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon.
Yo, comment ça se passe ce début d'année, là ?
Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière.
Putain !
Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes.
Vous sentez beaucoup votre bébé bouger ?
Oui, il bouge. Beaucoup.
Je suis grosse.
Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte.
Bon bah, il a très bien appris ça le sang, non ?
Il est médecin quand même, hein ? Même pas encore. Qu'est-ce que tu fais, Rose ? T'es infirmière ?
Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri.
Voilà, à voir, sage-homme, c'est un métier, on le rappelle.
Oui, absolument. C'est du sérieux en plus.
C'est du sérieux.
Oui, oui.
Et la tenue est importante, le rose.
Oui. Ah bah, demande pas pourquoi, je fais pas partie des milieux hospitaliers, mais peut-être que c'est pour apaiser. Oui, c'est quand même mieux que le rouge vif. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui.
Il y a des couleurs qu'il faut éviter, effectivement, ça peut faire peur.
Oui.
Voilà, le rose, ça peut adoucir, effectivement.
Ça adoucit.
Et ça donne confiance, en tout cas. On enchaîne avec un dernier rendez-vous de la semaine, Pascal. Tu nous as choisi un petit retour en arrière.
Absolument.
On va justement aller dans les souvenirs du cinéma.
On va
et à la Brèche.
Oui, on va revenir en 1999. On va faire un petit bond en arrière. On va parler de l'opération Ciné-Mémoire. Alors régulièrement, nous avons
exactement
des films de qui
du patrimoine.
Du patrimoine, oui. La dernière fois, on a vu Pandora.
Oui.
Là, je vous ai parlé du j'ai pas le Kraken, donc, du Hollandais volant.
Oui, c'est vrai.
Et oui, qui était illustré dans ce film-là. Quoi. Ghost Dog, Jim Jarmusch. Donc, un film de 1999. Hein. Grand film. Alors, Alors, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Ça fonctionne toujours. C'est vraiment très, 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 très bien, très, très bien filmé. La bande-son est d'enfer. Il y a vraiment une très, très bonne bande-son. Et les acteurs sont redoutables. Notamment Forest Whitaker. Donc, Ghost Dog, la voix du samouraï. C'est un film franco-japono-almano-américain d'1h56, un policier drame. Ce film a reçu 6 nominations. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Forest Whitaker, John Thorny, Cliff Gorman, Victor Argo, Henry Silva, Isaac de Bancolet. Donc Ghost Dog, c'est l'histoire de Ghost Dog qui vit au-dessus du monde, au milieu d'une volée d'oiseaux, dans une cabane sur le toit d'un immeuble abandonné. C'est vrai qu'il vit au milieu de ses pigeons.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, dans le film, il reçoit des messages. Mais oui, il travaille pour la mafia, il reçoit des messages grâce aux pigeons. Guidé par les mots d'un ancien texte samouraï, il est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville sans qu'on le remarque. Quand son code moral est trahi par le dysfonctionnement d'une famille mafieuse qui l'emploie à l'occasion, il réagit strictement selon la voix du samouraï.
Et il y a le sabre ?
Oui et non. Moi, je dis oui et non.
Oui, d'accord.
Après, je sais pas, je vais pas te raconter le film quand même, mais,
ah, d'accord.
Mais oui, il pratique le sabre. Est-ce qu'il flingue le sabre ? Non.
Ouais.
Mais il le pratique. Donc, le film a été présenté dans le cadre de la sélection officielle en compétition lors du 52e festival de Cannes en 99. Donc, on a Isaac donc, de Bancolet, donc, qui joue le rôle de Raymond. Alors, dans le film, qui n'est pas son acolyte, qui est son ami. Mais ce qui est intéressant dans le film, en fait, c'est Isaac de Bancolet, lui, est un vendeur de glace dans un square. Et Ghost Dog vient le voir de temps en temps pour manger une glace.
C'est bien, ça.
Et lui parle français. Et Ghost Dog parle anglais. Et en fait, ils dialoguent comme ça. Mais par contre, ils ne se comprennent pas. On va dire littéralement. On va dire, ils se comprennent, mais c'est une espèce de compréhension qui est un peu... qui n'est pas nébuleuse. Ils ne parlent pas le même langage... mais arrive à se comprendre. Voilà.
Non,
c'est très bien foutu dans le film, vraiment. C'est franchement mes passages préférés, je crois. C'est vraiment le passage du kiosque à glace et tout. Donc lui, il a reçu Isaac de Bancolet, qui joue le rôle de Raymond, donc le vendeur de glace. Il a le César du meilleur espoir masculin en 87 pour Black Mic-Mac de Thomas Gillou en 86. Et Isaac de Bancolet a déjà tourné sous la direction de Jim Jarmusch dans Night on Earth en 92. Alors évidemment, Ghost Dog est interprété par cet immense acteur qui est Forest Whitaker.
Excellent acteur. Ouais.
Donc en 88, Forest Whitaker a obtenu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour Bird.
Oui.
De Clint Eastwood.
Exact.
Dans lequel il interprétait le rôle du musicien. Lequel ?
Alors, c'est un musicien de jazz.
Yes.
Miles Davis.
Oh.
Non, je suis pas loin.
T'es pas loin.
Voyons.
Charlie.
Oui.
Charlie. Charlie.
Ah, c'est pas Charlie Winston, bien sûr, non.
Parker,
ouais.
Charlie Parker.
Ouais.
Donc, les références. Donc, Ghost Dog fait référence au cinéma de Jean-Pierre Melville, et notamment au Samouraï avec Alain Delon, mais aussi au réalisateur Akira Kurosawa et à son film qu'on a passé dans le cadre de Ciné-Mémoire à la Brèche. Quel est ce film de Akira Kurosawa ? Rashomon.
Ah oui, d'accord.
Rashomon.
Ouais, ouais, ok.
Donc Jim Jarmusch a remporté la Caméra d'Or en 84 avec Stranger Than Paradise, le prix de la meilleure contribution artistique avec Mystery Train en 89 et la Palme d'Or du meilleur court-métrage avec Coffee and Cigarettes Somewhere in California en 93. Ça, c'était d'un mépaplard, mais ce qu'il n'y est pas, et ça, je le regrette, c'est un de ses meilleurs films, enfin pour moi, hein, Dead Man.
Ah oui.
Avec Johnny Depp.
Oui, bien sûr.
Bon, le film en noir, grand film en noir et blanc. Grande critique sur la conquête de l'Ouest, le rêve américain,
ouais, c'est vrai, ouais,
qui se plante la gueule dans le ruisseau, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et puis c'était vraiment très très bien interprété, il y avait des super acteurs dedans. Et c'était un western, je crois que c'est le western le plus noir que j'ai jamais vu.
Ouais.
Et le noir et blanc, le rendu est absolument super. Dead Man, avec la musique de Neil Young. C'est Neil Young qui a fait la musique. Alors Neil Young, comment il a fait la musique, Neil Young ? Alors, Jim Jarmusch est venu le voir. Il a installé dans une salle. Il a projeté Dead Man sans le son.
D'accord.
Et il lui a dit, bon voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Donc Neil Young s'est pointé avec sa gratte, ses guitares. Et ainsi, il a composé la musique du film.
Ah d'accord. Voilà.
Et je vous invite, vous l'avez sur YouTube, hein, Deadman de Neil Young, allez écouter. Et ça colle avec le rythme du film. Ça colle vraiment, vraiment avec le rythme du film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va mourir, mais il est déjà mort, tu vois, il est entre les deux. C'est un monde parallèle entre les deux. Quoi. Avec des rencontres absolument superbes, hein, avec cet Indien qui s'appelle Nobody. Enfin voilà, c'est quelque chose. Hein, et c'est un grand film de Jim Jarmusch. J'aime beaucoup. Alors, il s'est un petit peu planté quand il a réalisé son film sur les zombies. Il s'est un peu ramassé avec Adam Driver. Mais ça reste quand même un grand réalisateur. Voilà, regardez Ghost Dog, regardez Dead Man, voilà, creusez un petit peu sur le personnage. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui s'est très très bien filmé. C'est quelqu'un qui sort un petit peu du concept du cinéma américain. C'est vraiment du cinéma, c'est ce qu'on appelle en fait le cinéma indépendant. C'est des gens qui rentrent pas, ils font pas partie du sérail, ils rentrent pas dans les codes cinématographiques classiques. Le bien, le mal, le méchant, le voici, le truc, le tu vois, le noir, le blanc, le gris. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Les personnages sont vraiment travaillés en profondeur, on voyage. Et puis aussi, c'est auditif. Hein, quand je vous parle de Neil Young qui compose, tu regardes Dead Man et rien que le riff de guitare, tu vas le garder longtemps dans l'oreille.
Hein. Ouais, ça reste, ça marque. Ouais,
ben oui. Et en plus, ce qui est marrant, parce que c'est. Tu as. Jim Jarmusch, je suis pratiquement sûr, parce que moi je l'ai travaillé à la guitare, son morceau. Hein. Il a calé son rythme de guitare sur la locomotive à vapeur.
Ah oui.
C'est pas un rythme binaire, le Dead Man. C'est quelque chose qui est très lancinant et c'est calé. Je suis sûr qu'il s'est calé sur la locomotive à vapeur. Parce qu'à un moment, il fait un grand, grand voyage, Dead Man. Il fait un grand, grand voyage à travers les plaines et tout. On le voit, Jim Jarmusch, à un moment, il fait un gros plan sur cette grosse machine à vapeur qui traverse, qui va violer tous les territoires indiens, tu sais, parce que, bon, évidemment, ils ont stérilisé toutes les plaines. Et c'est calé sur cette machinerie, quoi. C'est ça, le cinéma. C'est là où c'est inventif. Et c'est là où ça reste un grand film. Moi, je vous le recommande. Ainsi que Ghost Dog, évidemment. Hein, voilà. Donc, à déguster, à se poser devant. Et surtout à réfléchir. Ce sont des films qui vont réfléchir, c'est ça qui est chouette. Qui font réfléchir au niveau de l'esthétique, au niveau du récit, au niveau de l'approche des personnages, de la profondeur aussi des personnages. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est des films qui m'ont marqué, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Hein. Ils m'ont marqué, j'en ai revu, bah, comme je t'ai dit, j'ai revu Ghost Dog. Et je me suis dit, parce qu'à chaque fois que je regarde des films anciens, je me dis, bon, alors comment cela a-t-il vieilli quand même, ça date des années 90, comment les films ont vieilli? Ben, il n'a pas vieilli, Ghost Dog. Hein. Il est toujours d'actualité. Dead Man aussi reste toujours d'actualité. On va dire, on peut en parler pendant des heures. Voilà, mais j'espère que
ça fait plaisir.
Je vous aurais donné envie d'aller le voir, aller voir Ghost Dog. Mais chopez-vous Dead Man, posez-vous devant et vous allez voir, vous allez faire un gros gros voyage. Et puis c'est un film en fait. Dead Man à la fin, t'es pas bien.
Ah ouais.
T'es pas bien.
Ouais.
Parce que c'est quand même une personne qui agonise. Qui à un moment passe de l'autre côté. L'Indien dans le film lui fait passer le stick, c'est vraiment il le met sur une pirogue et le lâche dans le courant.
Ouais.
Tu vois, il traverse le stick, tu vois, il y a plein de références là-dessus, quoi. Voilà. Donc allez déguster le cinéma de Jim Jarmusch sans modération, mais surtout venez nous voir pour venir voir Ghost Dog en VO.
Voilà.
Vous pensez bien,
en plus en version originale.
Ah ouais, oui.
Oh, tu nous gâtes, Pascal.
Bien sûr,
Pascal,
bien sûr, toujours.
Bon, écoute, c'est noté en tout cas pour ce petit souvenir qui va faire du bien en tout cas pour ceux qui ont l'esprit vintage. Alors on va revenir sur l'actrice hein, qui fait son retour.
On va parler d'un joli sourire, on va parler d'une fille vraiment, vraiment sympathique.
Elodie Bouchèze
qui revient un petit peu sur les écrans ces derniers temps. Donc j'ai choisi, oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je ne la vois pas beaucoup et voilà, je voulais mettre un petit coup de projecteur un petit peu sur sa carrière. Hein. On va parler de sa filmographie. Qui es-tu, Elodie? D'où viens-tu?
Qu'as-tu fait?
Elodie Bouchèze. Elle est née le 5 avril 1973 à Montreuil.
Ouais.
C'est une jeune fille de 49 ans. Elodie Bouchèze, c'est 37 années de carrière, 79 films et séries tournées, 5 prix, 6 nominations. Oui, c'est quelqu'un... 6 prix, t'imagines? Non, 5 prix, pardon. En 95, elle a reçu le César du meilleur jeune espoir féminin pour Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné. En 98, elle a reçu le prix d'interprétation féminine dans La vie rêvée des anges. En 99, elle a été sacrée meilleure actrice pour La vie rêvée des anges dans Aux lumières de la presse étrangère. Toujours en 99, elle a eu le César de la meilleure actrice dans La vie rêvée des anges. En 2019, elle a été sacrée meilleure actrice dans le film Pupille. Aux lumières de la presse étrangère, oui, elle a raflé des prix, ouais. Élodie Bouchèze. Sa filmographie. Alors j'ai sélectionné quelques films. On la voit pour la première fois en 1984 dans Cinématon de Gérard Courant avec Pascal Bonitzer et Richard Bourringer. En 94, on la revoit évidemment dans Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné avec Gaël Morel et Stéphane Rideau. En 94, on la verra dans le film de Cédric Clapiche, un film que j'ai beaucoup aimé, Le Péril Jeune,
ah oui.
Avec Romain Duris et Vincent Elbaz. Oui, ouais. Elle est dedans. Ouais. En 98, on la verra dans Zonzon de Laurent Boutsnik avec Pascal Grégory et Gaël Morel. En 98, on la verra évidemment dans La vie rêvée des anges, qui la couronnera de succès, d'Éric Zonka avec Nathalie Régnier et Grégoire Coll. En 2000, on la verra dans le film d'Abdelatif Kechiche, La faute à Voltaire, avec Samy Bouadjila et Bruno Locher. Bruno Locher, je l'ai loupé dedans. Je l'ai pas vu passer. Ça s'affiche il y a pas très longtemps.
Exactement.
Je crois que c'était la semaine dernière, me semble-t-il.
Ouais.
En 2004, elle jouera dans le film de James Hutt, Brise de Nice, avec Jean Dujardin et Clovis Cornillac. En 2006, on la verra dans Ma place au soleil, d'Éric de Montalier, avec Nicole Garcia et Jacques Dutronc. En 2008, on la verra dans Seul tout, d'Éric Judor et Ramzi Bedia, avec Benoît Magimel. En 2012, on la verra dans La Grande Boucle de Laurent Tuel avec Loïs Cornillac
très
et
bon Bolly
Lanners. Tu l'as vu, La Grande Boucle?
Oui, c'est sympa.
Ouais, moi, je ne l'ai pas vu.
Ouais. C'est marrant, c'est bien. Ouais.
Bon. En 2018, on la verra dans Pupille, donc évidemment de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch. Et en 2022, quel film on la voit? Un film d'Olivier Dahan avec Elsa Zieberstein et Rebecca Marder. Oh, c'est fastoche. Elsa Zieberstein.
Ah oui, c'est vrai, oui. Eh bien, c'est Simone.
Simone, le voyage du siècle, exactement.
On en a parlé il
n'y
a pas longtemps. Oui. Exact.
Voilà un petit peu pour vous éclairer sur quelques films parmi tant d'autres dans lesquels a joué Élodie Bouchèze. La biographie.
C'est important.
Où vit-elle?
D'où vient-elle?
Qu'a-t-elle fait? D'abord danseuse.
Ah bon?
Eh oui. Élodie Bouchèze commence sa carrière cinématographique par des rôles sulfureux dans Stan the Flasher de Serge Gainsbourg.
Ah oui, elle a commencé avec Gainsbourg. Oui, ok.
Et Le Cahier volé de Christine Lipinska, dans lequel elle joue son premier grand rôle. En 94, André Téchiné la remarque dans Le Péril Jeune. Il lui offre un des principaux rôles des Roseaux Sauvages. Cette rencontre se révèle déterminante pour la carrière de la comédienne et lui vaut le César du meilleur jeune espoir féminin en 95. Actrice éclectique, Élodie Bouchèze joue une muette dans Club to Death en 96 de Graham Gitt, qu'elle retrouve pour Les Kidnappeurs en 98, ou alors une junkie dans Le Ciel est à nous en 97, et participe à des productions plus indépendantes comme Louise, Take Two en 97. En 98, elle partage avec Natacha Régnier l'affiche de La vie rêvée des anges d'Éric Zonka. Son rôle lui vaut un prix d'interprétation féminine à Cannes. Alors là, je vois. Alors, c'est vrai qu'il y avait Natacha Régnier. Je me demande si c'est pas la sœur de Jérémy.
Ah oui.
Parce qu'ils ont petit air de famille.
C'est fort possible.
Ils ont petit air de famille. En 99, la jeune femme prend part à la trilogie de La Liberté de Jean-Marc Barr et enchaîne ainsi les tournages de Lovers en 99 et du sulfureux Too Much Flesh en 2000 et de Being Light en 2001. Parallèlement à sa carrière française, elle s'affiche dans des productions américaines telles que Shooting Vegetarians
en 2000, original.
J'adore le titre. Premier film de Roman Coppola en 2001 et American Blonde en 2003 et dans les séries Alias saison 6 et The Hell World. L'actrice ne résigne pas non plus à jouer dans des films plus grand public comme Le Petit Poussé ou Brise de Nice en 2005. Absent des écrans durant près de 2 ans, Élodie Bouchèze revient au cinéma à partir de 2007 dans des films français au genre distinct. Du film choral, donc Ma place au soleil, au drame érotique dans Happy Few, en passant par la comédie Je déteste les enfants des autres, La Grande Boucle, Seul tout. Elle retrouve d'ailleurs en 2016 Ramzi Bedia pour sa première réalisation en solo, l'atypique Hibou, et se glisse dans un autre univers décalé, celui de Quentin Dupieux pour Réalité. Après avoir retrouvé pour la 7e fois Romain Duris, dont elle joue l'épouse dans Le poisseux fleuve noir, Élodie Bouchèze s'offre
avec Vincent Cassel. Non, c'est avec Vincent Cassel.
pour le fleuve noir.
Ouais.
Dans le poisseux fleuve noir. Non, Romain Duris.
D'accord.
Attends, je confonds avec Assez le feu, qui, dans lequel il allait jouer Romain Duris.
Ouais.
Alors, peut-être qu'il est dedans.
Dans ouais, le fleuve noir, oui, il y a Vincent Cassel. Ouais.
D'accord. Élodie Bouchèze donc s'offre des apparitions discrètes mais touchantes dans Gaspard va au mariage et Guy. Faux documentaire sur une vieille gloire de la chanson française, oui, c'était Alex de Lutz.
Ah oui.
On en avait parlé ouais, il y a pas longtemps. Hein. Il a été couronné pour ce film. Mmh. 2018 lui offre également l'opportunité de briller au premier plan dans la mini-série de Laetitia Masson, Aurore, où elle tente de se reconstruire après avoir commis un meurtre dans son enfance. Et au cinéma, dans le bouleversant Pupille, qui plonge dans les coulisses du processus d'adoption d'un bébé. Voici à peu près, du moins pour l'instant, la carrière.
Et c'est pas fini.
Élodie Bouchèze, non.
Pareil, on lui souhaite une carrière vraiment fructueuse. Hein.
On lui souhaite plein de succès, de grands films encore à venir. Et on lui fait un petit coucou.
Oui, on la salue, hein, si elle a besoin de nous. Il n'y a pas de souci. Hein. On peut faire un petit tour par la brèche, par exemple, pour dire bonjour Pascal.
Ah, ça serait avec plaisir. Ça, ah, serait, voilà. Trop, ah, ça serait trop top.
Tu m'appelles. Hein, tu m'appelles.
Mais je t'appelle, tu penses bien qu'on va faire une émission de radio avec. Hein, ça, on va pas louper cette occasion.
Bon, écoute, je vais chercher son numéro de téléphone et je te préviens.
Ah, oui, absolument. Je suis preneur.
Bon, Pascal, bah écoute, le temps passe vite. En tout cas, c'était un véritable plaisir pour cette nouvelle semaine cinéma à la brèche. Venez au cinéma, venez voir, soyez curieux. Des films à sujet cette semaine.
Ah, il y a beaucoup de ciné-rencontres.
Ouais.
Là, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait des comme ça. Voilà, donc venez profiter, venez voir tous les intervenants. Il y a plein de sujets à traiter. Des sujets, bon, mais des gens à écouter. Et puis aussi, vous serez là aussi pour poser des questions. Ce qui est important, et c'est quand même le but du ciné-rencontre.
Voilà, c'est ça. Discuter à l'issue des films, donner peut-être votre impression aussi sur le film, ça peut être intéressant.
Il y a ça aussi, oui, bien sûr.
Voilà, et on rappelle qu'on peut retrouver la programmation à la fois sur le site du cinéma, c'est bien sûr labrèche.com, hein, tout simplement, oui. Je fais le raccourci.
Voilà.
Et puis, il y a une page Facebook, et puis aussi le petit Instagram. Programme. Le petit programme qu'on peut mettre dans la poche, ça c'est pratique. Hein.
Oui,
dans la poche arrière ou la poche avant du jean, hein, ça passe. Hein.
Voilà. Ou vous pouvez le consulter sur vos portables. Je sais que tout le monde maintenant est équipé avec des portables.
Ouais, dans la
ça.
Salle d'attente, ouais. N'importe où, voilà. Chez le dentiste.
Voilà, vous pouvez aussi aller sur Allociné. Je ne sais pas si vous.
Ah ouais,
je m'en sers régulièrement. Je sais que c'est un site qui est très très bien fait. Hein. Allociné, il y a tout, hein, dessus. Hein. Vous avez même les horaires. Hein. Vous avez les synopsis, pareil, les acteurs, les horaires, les cinémas. C'est national, Allociné.
Voilà. Et on rappelle que le cinéma à la brèche ne ferme jamais.
Non, il ne ferme jamais, sauf après 23h.
C'est ça, oui, voilà.
Il fallait dormir un petit peu quand même.
C'est important. Oui. Pascal, on va faire une petite pause de vacances.
Oui, c'est vrai,
on se retrouve dans 15 jours. On rassure les auditeurs.
Très chers auditeurs et auditrices, on va vous quitter pendant
voilà,
deux semaines.
On va faire un petit peu de marche, faire un petit peu de vélo, du jardinage aussi.
Moi, c'est plutôt jardinage, ouais.
Voilà, et puis on se retrouve en très grande forme dans 15 jours sur la radio. Vous avez les podcasts, bien sûr, pour vous régaler avec les émissions de Pascal. N'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des rendez-vous. 65e édition, ça passe vite, hein, et ça fait
c'est
beaucoup
vrai,
d'émissions.
Ouais,
sur la radio.
Ouais, à chaque fois, je suis épaté. C'est pour ça que je le note, parce qu'au début, en fait, je ne les notais pas, parce que. Quand j'ouvrais sur une autre radio, là, je ne les notais pas. Et,
non, mais ça fait.
Mais par contre, de temps en temps, tu sais, moi, j'entasse mes papiers.
Ouais.
Et alors, moi, j'ai vu la hauteur du. Putain, mais il y a combien là-dedans oui. Alors, du coup, depuis je les numérote. Et c'est vrai qu'on est déjà à 65.
Ouais. Le temps passe vite. Hein.
C'est énorme.
Alors, bonnes vacances, Pascal. À très vite sur les ondes, en tout cas dans 15 jours. Et je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air et bien venez discuter avec tous les intervenants qu'on vous a proposés ou alors venez voir Shazam ou d'autres films. Vous les bienvenus. Venez voir Ghost Dog. Venez voir du Jim Jarmusch. Voilà, venez vous régaler. Venez voir un petit peu tout ce qu'on a à vous offrir et toute la diversité que peut offrir le cinéma à la brèche de Sainte-Foy-la-Grande.
Merci Pascal.
Merci à toi Christophe.
Allez, dans 15 jours.
À dans 15 jours. Passez une très bonne semaine.